France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Monsieur Verdoux, Limelight, Un roi à New York, La comtesse de Hong Kong. À la fin des années 40, Charlie Chaplin était toujours bien vivant, mais Charlot était mort. L'âge venant, Chaplin ne pouvait plus être Charlot et il ne pouvait pas plus longtemps résister aux parlants. Or, comme le dit Claude Chabrol, il était impossible que Charlot parlât. Si dans Le Dictateur, Charlot est encore là sans y être tout à fait, il disparaît complètement avec Monsieur Verdoux. Pourtant, à y bien regarder, Charlot hante les derniers films de Charlie Chaplin. Chaplin après Charlot, une émission de Jean-Pierre Pagliano pour les Mardis du cinéma en 1986. Avec des textes de Jacques Brunius, Éric Rohmer et André Bazin. Les voix de Claude Chabrol, Pierre Etex, Henri Colpi, Georges Sadoul et Philippe Soupeau. Avec la voix de Charlie Chaplin et des extraits de ses films en version originale. Quand Charlot, par son absence, brille encore de tous les feux de la rampe.
Madame, monsieur, il est très difficile de parler en français. Malheureusement, I must speak in English.
Charlie Chaplin à Paris en 1952.
I feel like the widow.
Je me sens comme une veuve.
While her husband.
On enterre son mari à l'église.
And somebody.
Quelqu'un.
Is eulogizing.
Fait l'éloge du défunt.
The minister, at least, is eulogizing, saying what a wonderful man he is.
Quel homme admirable.
And the widow turns to her little boy and says, I think we're in the wrong church.
La veuve se tournant vers son petit garçon, on a dû se tromper d'église. Chaplin après Charlot, par Jean-Pierre Pagliano et Claude Giovannetti.
I'm sure I can't teach the French people anything. They've known it. I think this is the greatest cultural center of the world. It always has been. And I am indeed gratified and honored that my work throughout the years has been so appreciated by the French people. I feel that you have understood my heart and my instinctive sense of beauty. I say this because of all the nuances I do in my pictures, it's always with the idea of saying, well, as I've always said to my assistant director, the French will understand this.
Le Kid, le cirque, les lumières de la ville. Les temps modernes. Pendant 30 ans, pour les spectateurs du monde entier, Chaplin, c'était Charlot. Rien que Charlot.
À mon avis, si on me demande de citer un seul homme de génie...
Georges Sadoul.
...dans le cinéma, c'est évidemment Charlie Chaplin. Il est un homme de génie. et reconnu comme tel, ce qui est admirable chez lui, c'est que les intellectuels à grande cervelle, comme on dit quelquefois et comme on dit dans les pays anglo-saxons en tout cas, les intellectuels y trouvent des choses absolument extraordinaires. Mais que n'importe quel personnage pris dans la rue comprend également Chaplin. Et s'il est significatif que, par exemple, des bandes dessinées continuent d'avoir aujourd'hui Charlot comme héros. Et qu'on continue, au carnaval, à vendre des masques en carton qui sont ceux de Charlot. Que ce soit dans n'importe quelle partie du monde, que ce soit à Bombay, à Shanghai, à Buenos Aires, partout, partout, tout le monde sait qui est Charlot.
Idole des foules, mythe célébré par les intellectuels et les poètes, Charlot dut un jour s'effacer derrière son créateur, contraint au renouvellement. Le génie absolu, aussi peu discutable que Molière ou Shakespeare, cède la place à Charles Chaplin, auteur controversé. Pour Henri Langlois, jamais Chaplin ne fut plus grand, plus jeune, que ce jour où il lui fallut cesser d'être Charlot. Et jamais il ne fut si seul. Le monde entier était rempli du regret de Charlot. Ce passage de l'universel au particulier, en effet, ne va pas sans risque. Après Le Dictateur, film charnière, marqué tout à la fois par le dédoublement de Chaplin-Charlot et par l'adoption tardive du cinéma parlant, M. Verdoux se solde par un échec commercial et l'incompréhension de bon nombre de critiques. Désormais à visage découvert, Chaplin remet tout en question à chaque film. Limelight, Un roi à New York, La comtesse de Hong Kong.
J'en veux beaucoup à Charlie Chaplin, qui a eu le génie de créer un mythe, et le mythe de notre époque, car Charlot est le héros de notre temps, d'avoir tué ce mythe.
Philippe Soupeau.
D'être créateur d'un mythe, c'est déjà prodigieux, mais d'être l'assassin d'un mythe, c'est quelque chose de consternant. Et je ne suis pas assez méchant, assez cruel comme le serait Charlot, pour ne pas dire que c'est une chose extrêmement grave. Je ne vois pas Cervantes tuant Don Quichotte. Je ne vois pas Defoe tuant Robinson Crusoe. C'est extrêmement grave, après avoir donné un mythe à l'humanité, de le tuer. Il est extrêmement difficile de savoir comment se survivre. Et pourquoi j'en veux à Chaplin ? C'est que justement, il me donne l'exemple de la mauvaise survie. C'est que, après, même Le Dictateur, qui a des parties merveilleuses, et surtout après L'Arrivée vers l'or, Chaplin a voulu se survivre, il a voulu parler, il est devenu bavard.
You must speak. I can't. You must. It's our only hope.
I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost.
« 1940, Le Dictateur ». Pierre Etex, j'ai trouvé dans une interview de Céline ce jugement sur lequel j'aimerais bien avoir votre propre opinion. Depuis que le cinéma parle, je ne vois plus aucun film. Avant le parlant, Charlie Chaplin était admirable. Aujourd'hui, il est minable. Il s'obstine maintenant à faire de la philosophie.
Oui, ça, je veux dire que, sans porter de jugement de valeur sur ce jugement, il est certain que un homme comme Céline, au moment où le cinéma parlant, où Chaplin a commencé à parler, ait pu être irrité par le fait qu'il faisait, il n'a pas été le seul, qu'il faisait de la pseudo-philosophie. Et je pense qu'il y a un manque de recul. Il faut resituer les choses dans le temps. Je crois que ça a blessé beaucoup de gens d'entendre Chaplin parler et de nous raconter les histoires qu'il nous racontait. Moi, je pense que le temps a tout remis en place et qu'aujourd'hui, le discours qu'il tenait dans ses films parlants nous touche parce qu'il était sincère. Qu'importe ce qu'il soulève, ce qu'il dit, moi je crois à Chaplin quand je l'entends.
À ceux qui peuvent m'entendre, je dis ne désespérez pas.
To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Tant que les hommes mourront, la liberté ne périra
jamais.
Soldiers,
don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty.
Soldats, ne luttez pas pour l'asservissement, luttez pour la liberté.
Not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Depuis le Kid 1920, presque chaque film de Chaplin, c'est... il y met tout son argent et tout son crédit.
Henri Colpi.
Et en faisant des choses invraisemblable, comme de tourner encore en 1935 Les Temps modernes, tourner un film muet en 1935. Faut se lever de bonne heure, avoir le cœur bien accroché pour penser que il va intéresser un public qui de toute façon en a été à ce moment-là largement au film 100% parlant. C'était écrit comme ça sur les affiches, 100% parlant. Et lui, il était 100% muet, disons. Ben, il risquait tout, quoi. Chaque fois, là, quand il fait le dictateur, c'est quand même une déclaration de guerre à Hitler. C'est un type qui a toujours beaucoup osé. Quand il fait, je sais pas, Monsieur Verdoux, et que tout d'un coup, il n'est plus Charlie Chaplin, mais qu'il est un petit Français moyen avec un béret sur la tête et des cheveux gris et une petite moustache grise, il risque tout, encore une fois. Le public qu'il avait mondial risquait de ne pas le suivre. En plus, pour M. Verdoux, il ne l'a pas tellement suivi, parce qu'en plus de cela, le sujet était ce tueur de bonnes femmes, là, ce Landru. C'était quand même pas un personnage qui pouvait être tellement sympathique à un public. Alors que Charlot, le personnage Charlot, avait toujours dégagé une énorme sympathie.
Alors comment interprétez-vous justement cet abandon du personnage de Charlot? Uniquement pour des raisons physiques et d'âge, parce qu'il ne pouvait plus jouer Charlot?
Oui, je pense qu'il y avait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est certainement une question d'âge. Quand il a commencé à friser, à dépasser largement la quarantaine et à friser la cinquantaine, on ne peut plus se déplacer comme il se déplaçait avant. Et il y a aussi le fait que Charlot était un personnage, comme il aimait à dire, de la pantomime. Un personnage du muet. Et puis, bon, et quand il a vu qu'il a perdu, il a été toujours contre le cinéma parlant pendant au moins 10 ans. Quand il s'est rendu compte, bon, qu'il n'y a plus rien à faire, quoi, que il a perdu. Et ce qui en raison, c'est le public et c'est ceux qui font des films parlants. Alors il s'est mis à faire des films parlants. D'ailleurs, il savait écrire un dialogue, Chaplin, mieux que pas mal d'autres. Et puis, quand il s'est mis à parler, il a parlé beaucoup, hein. Des choses comme Monsieur Verdoux, c'est un film de texte, beaucoup, de dialogue. Et même dans Le Dictateur, quand le personnage qu'il charrie un peu, là, un peu beaucoup, qui est soi-disant Hitler, quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais puis c'est une langue inventée. Mais qu'est-ce qu'il a comme texte?
Hey, der Strafnitz Hülsenfett, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerten und der Saukraut. Hey, der Filuten sagt der Filerten, ein Tomelier wie ein Straf, und der Blitzen sagt der Klütz. Hey, ich bleibe noch Straf mit der Ach.
Ballone.
Ballone, was ein Stritz mit seinen Eltern sagt der Hüten, ein der Straf. Mit seiner Klatsch, ey, der Stratz mit Sekretenten da, in seiner Tratsch mit Skedang, mein einer Titta, wieder strafen, die strafen, sie strafen!
Adenoid Hinkler has just said, yesterday Tomania was down, but today she has risen.
Alors justement, notre sujet, ce sont les films parlants de Chaplin, oui. C'est-à-dire Chaplin après Charlot.
Oui.
Comment interprétez-vous cette mutation qu'il y a eu à ce moment, après Le Dictateur?
Mais c'est-à-dire que je crois déjà qu'il y a une chose de sa part d'une intelligence formidable, c'est qu'il a compris que Charlot ne pouvait pas parler.
Claude Chabrol.
Et donc il était obligé de faire autre chose. Alors, il a tenu dans le muet le plus longtemps possible. On s'est longtemps demandé pourquoi il ne voulait pas du parlant. En fait, c'était parce qu'il avait compris que Charlot ne pouvait pas parler. Qu'à partir du moment où Charlot parlait, c'en était fini du personnage. Il ne pouvait pas s'exprimer par le verbe. Et il ne pouvait pas non plus le faire muet. Bon, donc c'était sans solution.
Il ne pouvait pas non plus jouer Charlot jusqu'à 70 ans.
Oui, mais ah ben, il aurait pu encore tenir un peu plus longtemps. Alors l'espèce de charnière, ça a été Le Dictateur, où à la fois on peut dire que le barbier n'est pas Charlot, mais est une copie de Charlot, mais parlante. Donc, mais ça n'est pas Charlot, il se trouve que c'est un personnage qui est comme Charlot, mais qui n'est pas Charlot. Et Henkel est une interprétation. Enfin, on peut se demander si c'est pas une part de Charlot aussi, mais enfin, bon, bref, enfin, ça c'est un autre problème. Mais enfin, c'est là où il a bifurqué. Et après, ça n'a pas été tellement difficile de passer à Verdoux, des choses comme ça.
...1947, Monsieur Verdoux.
Verdoux est un barbe bleue, un employé de banque insignifiant qui, ayant perdu sa place pendant la crise, met au point une combinaison qui consiste à épouser de vieilles célibataires et à les assassiner pour leur argent. Sa femme légitime est une invalide qui habite la campagne avec son jeune fils, mais elle ne sait rien des agissements criminels de son mari. Après le meurtre d'une de ses victimes, il rentre chez lui comme le ferait un bon mari bourgeois au terme d'une journée de travail. C'est un paradoxe de vertu et de vice. Un homme qui, lorsqu'il taille ses rosiers, évite de marcher sur une chenille, alors qu'au fond du jardin, une de ses victimes se consume dans un incinérateur.
Good evening. As you see, my real name is Henri Verdoux. And for 30 years, I was an honest bank clerk until the depression of 1930, in which year I found myself unemployed. It was then I became occupied in liquidating members of the opposite sex. This I did as a strictly business enterprise, to support a home and family. But let me assure you that the career of a blue beard is by no means profitable. Only a person with undaunted optimism would embark on such a venture. Unfortunately, I did. What follows is history.
Non, Verdoux, ça vous touche de plus près?
Ben oui, parce que Verdoux, bon, à vrai dire, l'idée de Verdoux est de Wells. Hein. C'est Wells qui s'intéressait à Landru, je ne sais pas pourquoi, et qui en avait parlé à Chaplin. Et puis après, ils se sont brouillés un peu parce que Chaplin n'a pas voulu travailler avec Orsot sur le truc. Enfin bref, ils se sont un petit peu brouillés là-dessus. Moi, ce qui me fascine dans Verdoux, c'est ce qu'il a gardé de l'histoire de Landru et ce dont il s'est détaché. Alors, par exemple, l'ignoble cœur existe encore avec la femme paralytique. C'est-à-dire qu'il s'est senti obligé de le justifier davantage.
Côté pathétique.
Le côté pathétique. Oui, ça, il adorait. Cela dit, le pathétique dans Limelight, c'est sublime. Mais à mon avis, plus que dans Verdoux. Enfin, dans Verdoux, je veux dire, la bonne femme dans son fauteuil roulant me gêne un tout petit peu. Enfin, je trouve que ça enlève un petit peu de la cruauté.
Mais le reste, c'est du Chabrol, quoi. À tel point qu'on peut se demander
si... Non, n'exagérons pas. Non, non, hélas.
On peut se demander si votre Landru est un remake de Verdoux ou si Verdoux est un remake par anticipation.
Oui, on s'est posé la question quand on a fait le film. On s'est dit, il faut faire attention à la fois, les éléments de Landru qui sont dans Verdoux, on est bien obligé de les conserver. Cela dit, l'aspect physique même du personnage rend les choses complètement différentes. Enfin, l'aspect physique de Verdoux est infiniment plus acceptable de nos jours que l'aspect physique de Landru. Une espèce de petit barbu chauve, ça n'est pas un séducteur. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, à vrai dire, avec Sagan, ça a été de faire en sorte que tout n'était bien entendu pas vrai dans ce truc, mais que tout aurait pu l'être, quoi. Il n'y avait pas d'éléments en contradiction avec la réalité que l'on connaissait sur Landru. Alors que Verdoux était une interprétation chaplinesque, presque charlottesque, du mythe de Landru. Cela étant dit, il avait conservé des éléments très curieux. Par exemple, il a conservé deux choses qui sont très étranges. Le fait qu'il avait un bric-à-brac, enfin qu'il était chiffonnier, antiquaire, enfin mélange de tout ça, c'est un premier point. Le fait qu'il aimait citer Baudelaire. Je me souviens plus ce qu'il citait dans Verdoux. Parce que nous, ça nous avait tenté, et puis on s'est dit, non, c'est pas possible, parce que c'est déjà dans... Oui, c'est nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, hein, des vents profonds comme des tombeaux. Et ça nous aurait bien plu de l'injecter aussi, mais c'était pas possible, parce que là, ça devenait vraiment imitatif. Non, le seul point où on s'est retrouvé un petit peu, vraiment, enfin, de près, c'est le principe de l'exécution, parce qu'on s'est aperçu que les gens qui vont à l'échafaud, c'est une espèce de rite qu'on peut difficilement transgresser. C'est comme ça. Ils avancent comme ça.
Avec leur petit bagage.
Avec leur petit bagage. Ça, le petit bagage, c'est le petit-fils de Mauro Giafferi qui m'avait raconté ça, que son grand-père lui avait dit que Landru lui avait dit, moi j'emporte mon petit bagage. C'est une chose qui m'avait vraiment frappé.
Verdoux attend son exécution. Il reçoit un journaliste dans sa cellule.
Well, Verdoux. You'll have to admit, crime doesn't pay, does it?
No, sir, not in a small way.
What do you mean?
To be successful in anything, one must be well organized.
You're not leaving the world with that cynical remark.
To be idealistic at this moment would be incongruous, don't you think?
What's all this talk about good and evil?
Arbitrary forces, my good fellow. Too much of either will destroy us all.
We can never have too much good in the world.
Trouble is, we've never had enough. We don't know.
Listen, Verdu, I've been your friend all through the trial. Now, give me a break, a story with a moral to it. You, the tragic example of a life of crime.
I don't see how anyone can be an example in these criminal times.
En ces temps criminels.
You certainly are, robbing and murdering people.
That's business.
Well, other people don't do business that way.
That's the history of many a big business. Wars, conflict. It's all business.
Les guerres, les conflits, tout est business.
One murder makes a villain. Millions a hero. Numbers sanctify, my good fellow.
Le nombre sanctifie.
Father Farrow, to see you.
By all means, show him in. You'll pardon me, but my time is limited.
Excusez-moi, mon temps est compté.
Well, Verdu, is there anything else you'd like to say before I leave?
Yes. Goodbye.
Alors, à part ce personnage central de Landru, Landru Verdoux ou Landru Landru, qu'est-ce qui vous paraît distinguer complètement vos deux films ? Enfin, que cherchait Chaplin et que cherchait Chabrol ?
Oui, que cherchait Chaplin ? Je pense qu'il cherchait une forme de justification au comportement cruel. Je me souviens dans Verdoux, il dit à la jeune femme qu'il avait retrouvée, quand il la retrouve, il lui dit ce monde est dur et il faut être dur pour y subsister. Je crois que c'est vraiment la clé de la tentative de justification, sans parler du laïus final qui est très marrant, enfin, très paradoxal, enfin, sur le nombre de morts, le nombre sanctifié et tout ça. Bon. Je crois que c'est ça qui le fascinait. Et moi, ce qui me fascinait, c'était, comme toujours, d'ailleurs, moi, c'est l'opacité qui me fascinait. Mon grand plaisir, c'est de plonger chez des gens existants, comme ça, ou n'existant pas, des gens existants, d'essayer de lire tout, d'essayer de comprendre. Hein, et plus on s'enfonce dans la tentative de compréhension, plus ils deviennent incompréhensibles. Et ça, c'est mon grand vertige, ça me fascine complètement. Et ce qui me plaisait dans Landru, c'est qu'il était lui-même complètement inexplicable. Et en plus, l'espèce de mythologie qui s'était développée autour de lui est encore plus inexplicable parce que Landru est un personnage éminemment sympathique. Ce qui est un grand mystère, c'est que Landru fait rigoler tout le monde. Bon. Petiot, par exemple, ça ne pourrait pas marcher parce que Petiot, c'est une répulsion. Landru, pas du tout. C'est extrêmement rigolo. Ce type qui tue des femmes pendant rien. Bon, c'est complètement ignoble, qui les découpe en morceaux. Là, c'est absolument infernal. Bon. Et bien quand même, il dégage une espèce de sympathie. Alors ça, c'est très mystérieux. Pourquoi ?
Lydia!
I thought you were in Indochina.
I was, my dear. I was.
Don't dear me. 3 months you've been away, and not a line from you.
Didn't you get my letters?
What letters?
I wrote you practically every day.
All I got was a telegram 3 months ago. Running off and leaving me here alone.
My dear, I have to travel. That's my business. I'm an engineer.
Too bad I didn't know that before I met you.
Lydia.
Well, what do you want?
Nothing, my dear, nothing.
Annabella.
Louis, my pigeon!
Annabella?
How come you're 2 days late?
Sorry, my land, coming up the straits, the sou'wester blew up on the port side and landed us on a mud bank. We had to wait for high tide before we could get off again.
Oh, you look so fresh and salty.
Do I, my darling?
You were thinking of me, pigeon.
Ah, yes, you. I would think of these adorable arms, and these little hands, and this delightful little wisp. Let me kiss you there.
Mrs. Gruner.
May I use your telephone? Oui, monsieur. Thank you. Hello? Give me Passy 3211, please.
Hello?
This is Monsieur Varney.
Well, I should be very angry with you, but I have no more assistance.
Good. When can I see you?
Why are you so persistent?
Very simple, because I love you, Mary.
Why, you hardly know me.
I've always known you. From the moment we met, I knew there was a deep, wordless understanding between us. It was in your eyes, Mary. They are beautiful. like the loneliness of distant stars. I often wonder, who are you in the dark?
I don't quite understand.
I can't express it in words. Only a symphony could say. Music of the spheres.
Oh, my dear, I'm not as ethereal as all that.
You're everything. Saints in a snake and gazelle all in one. I can't forget you. Every look, tone, gesture is engraved in my mind. I must see you, Mary. Immediately. Now. Good. I'll be right over.
Lydia.
Lydia, you're very tired. What you need is a good night's rest.
Turn out those lights.
Yes, my dear.
Did you lock the doors?
Early this evening.
Latch your kitchen window?
Don't worry. Everything's attended to.
Well, did you?
Yes, my dear. What a night.
Yes, full moon.
How beautiful this pale Endymion hour.
What are you talking about?
Endymion, my dear. A beautiful youth possessed by the moon.
Well, forget about him and get to bed.
Yes, my dear. Our feet were soft in flowers.
Chaplin avec beaucoup de dextérité quand elle est billet.
Ah oui, oui, oui. Parce qu'il était, oui, c'est ça, il était censé. Je crois que Verdoux était censé être comptable de banque, hein, au départ. Mmh.
Mais justement, ce thème de l'argent, je crois qu'il était beaucoup plus important chez Chaplin que chez lui.
Oui, ça, c'est une vision américaine des choses, la justification par le pognon, qui en France ne marche pas. Je veux dire, la justification par la fesse marche beaucoup mieux que la justification par le pognon en France. C'est une des choses qui rend l'affaire Landru très mystérieuse, c'est que toutes les femmes qu'il assassinait, c'était le principe de veuves, soit de veuves, soit de femmes dont le mari était parti, c'est arrivé aussi deux fois, et qui avaient une fortune, il se faisait donner l'argent, et il les amenait à gamber, il les tuait. C'était des femmes d'une 40-50 ans. Or, dans le tas, dans les 13 reconnues, il y a une nommée André Bablé, qui était une jeune fille de 19 ans, qui n'avait pas d'argent, et qui l'a tué aussi. Bon. Alors ça, c'est très mystérieux. Ça, c'est très mystérieux. Ça. Puis ça, c'est inexplicable.
Et c'est pour ça que vous avez cet air ravi.
Ah oui, oui. Ah ben oui, non, c'est inexplicable, c'est magnifique. Je me souvenais plus très bien de Verdoux, parce que j'avais vu une seule fois quand il était sorti. Et quand il est repassé, là, je me souvenais plus très bien de ce qu'il faisait avec la fille errante, là, qu'il trouvait.
Quite a shower.
Yes, it is.
Can I escort you anywhere?
Oh, thank you.
Allow me.
Quand j'ai vu qu'il commençait à l'empoisonner, je me suis dit, ah, bah tiens, il l'empoisonne. Et puis pas du tout, il s'arrête de l'empoisonner.
You're married?
I was. He died while I was in jail.
Marilyn Nash.
Si.
La vagabonde.
Tell me about him.
That's a long story. He was wounded in the war, a hopeless invalid.
An invalid?
That's why I loved him. He needed me, depended on me. He was like a child. But he was more than a child to me. He was a religion. My very breath. I'd have killed for him. No, love is something very real and deep. I know that. However,
pardon me. I believe there's a little cork in that wine. Let me get you another glass.
Marilyn Nash, la jeune femme au regard tendre, pur et tout illuminé de jeunesse, sort de prison pour vol.
Elle est sans le sou et sans toit. Verdoux la recueille dans une encoignure de porte un soir de pluie et il va expérimenter sur elle le poison qui ne laisse pas de traces. Mais il lui fait grâce parce qu'elle a aimé un jeune mari infirme et vient de le perdre. Marilyn Nash, je me demande comment vous ne l'avez pas reconnu, c'est Charlot le vagabond. Elle cache sous son imperméable fripé un petit chat abandonné, comme il cachait un fox terrier dans son pantalon. Quand il la laisse dans la rue, elle a pour regarder partir son seul bienfaiteur, le même regard perdu qu'avait Charlot pour Edna ou pour Georgia. Ainsi donc, Verdoux, c'est bien Charlot, mais c'est en même temps son contraire, ou son complément, ou son double, ou son frère jumeau, comme vous voudrez. Et en Marilyn Nash, qui l'épargne, Verdoux, lui, se reconnaît. Il ne se reconnaît que trop bien, puisqu'il se fuit.
Thank you. Oh, this is too much. Carrying on this way. I was beginning to lose faith in everything. And this happens and you want to believe all over again.
Don't believe too much. This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.
Dans un monde sans pitié, il faut être dur pour subsister.
A blundering world and a very sad one. Yet a little kindness can make it beautiful.
You'd better go before your philosophy corrupts me. You can go out this way.
Good night, and thank you.
Monsieur Verdoux n'est pas un révolté, ce serait trop simple. Ce n'est pas non plus un de ceux qu'on peut tenir pour responsable de l'oppression. Là, de se laisser balloter au gré de la chance et de la malchance, il s'est établi au sein du mal. Dans un monde non plus seulement indifférent, mais implacable, cruel, inhumain, meurtrier, il a décidé de trouver enfin sa place en se faisant meurtrier, en s'exerçant méthodiquement à demeurer indifférent, cruel, implacable, inhumain. Pourtant, il n'est pas sadique, il ne s'agit pas d'une analyse psychologique. Il est même très gentil avec les enfants, les animaux, les roses, et avec ses victimes elles-mêmes, lorsque leur vulgarité ou leur rapacité ne lui répugnent pas trop. Il est donc resté lui-même, sauf qu'en adoptant, pour s'enrichir aux dépens d'un monde qu'il réprouve, les moyens de ce monde lui-même, il a laissé pénétrer en lui la société avec tous ses vices. Au lieu de se dédoubler en bon et en méchant, il englobe les deux dénominations et représente maintenant à la fois Charlot et la société. D'où la nécessité d'un furtif reflet du vagabond en la personne de Marilyn. D'où le peu d'importance accordée dans le film au monde où se déroule l'histoire. Car le conflit n'est plus extérieur, mais interne, Verdoux contre Verdoux. Verdoux n'éprouve ni joie ni remords dans le crime, parce qu'il symbolise en une seule personne l'inconscience du monde. Il est une vivante démonstration par l'absurde de notre méchanceté et de notre folie collective, à nous tous qui, individuellement, sommes pourtant capables d'être bons ou raisonnables. Ce jeu subtil et changeant comme Satan n'est possible qu'à la faveur d'une telle ambiguïté. Quoi que dise Verdoux, il a toujours à la fois tort et raison. Jacques Brunius, La Revue du Cinéma, 1948.
Et à part Verdoux, est-ce qu'il y a d'autres films de Chaplin de cette époque, donc d'après-guerre, qui vous intéressent?
Ah, moi je suis complètement subjugué par Limelight. Je trouve que c'est un film complètement magnifique parce que c'est une espèce de sublimation du mélo pur. Enfin, c'est même le décor, enfin, le Londres d'avant la guerre de 14. Enfin, c'est vraiment l'idéal pour le principe du grand mélo. Et c'est un grand mélo. Et absolument fou. Enfin, il y a des choses d'un culot. Je me souviens quand même, c'est quand même impressionnant, ce type en clown derrière un panneau qui
qui se met à, je me souviens, je vois, il se met à prier, il se met à prier pour que la petite danseuse remarche, parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir danser, tout ça. C'est une image absolument folle, enfin, une espèce de clou. Oser accumuler autant d'éléments mélodramatiques et de pathétiques bon marché et de faire en sorte que ça ne le soit plus du tout, c'est exceptionnel, c'est quel travail.
...1952, Limelight, les feux de la rampe.
Tas de notions qui s'interfèrent dans ce film. On pourrait en parler longuement, mais c'est très complexe. Enfin, pour moi, c'est un film exemplaire encore parce que...
Pierre Etex.
Il traite de toutes les joies du spectacle aussi, ce qu'on oublie très facilement. Quand il revit les moments où il faisait son numéro et qu'il faisait du succès sur scène, ce sont des moments d'une émotion rare. Quand il attend dans les coulisses avec le stick sous le bras et qu'il met ses gants, qu'il arrange son chapeau et qu'on lui dit « prêt ?» Oui, paf, l'orchestre attaque. Et quand il franchit, alors il est très grave en coulisses, et quand il franchit le pas et qu'il arrive sur le plateau, il devient un clown merveilleux. Bon, et il y a toutes les déceptions et les difficultés de ce métier qu'il met en évidence. Mais ce n'est pas un clown qui larmoyant et qui pleure. Souvenez-vous quand il apprend que la jeune fille qui tente de se suicider et qui lui pose la question « Mais que faites-vous dans la vie ?» et qu'elle lui dit « Danseuse ». D'un seul coup, son visage s'illumine. Ce vieil homme qui est alcoolique, qui n'a plus de travail. Ce vieux clown déchu, d'un seul coup, s'illumine parce qu'une jeune fille lui dit qu'elle est danseuse. Ça, je veux dire que ce sont des moments inoubliables. Vraiment, je crois que c'est l'essentiel de cette passion du spectacle qu'il a. C'est l'essentiel d'une vocation qui apparaît dans ce film. Cet amour qui existe entre eux est lié à cette passion du spectacle. Elle est danseuse et elle vit pour la danse et lui vit pour son métier. Alors, si vous voulez, c'est un raccourci de toute une vie d'artiste que j'ai connue, si vous voulez, à travers des exemples de gens de cirque qui n'ont pas eu que des moments heureux. Mais de là à dire que le clown est triste, c'est absurde. Il fait pleurer sur le côté mélodramatique. Il a toujours eu un goût pour le mélo parce que de par sa jeunesse, de par les difficultés qu'il a rencontrées dès l'origine. Et ce goût, on ne peut pas le lui reprocher, mais on ne peut pas dire non plus que ce goût du pathos entache le récit de Limelight. De mon point de vue, au contraire, il l'anoblit d'une certaine manière. Il me dirait que je suis partial, mais c'est normal. Lorsqu'il joue dans la rue et qu'il retrouve la danseuse qui entre dans le petit bistrot où il vient faire la manche. Et il lui dit à ce moment-là qu'il va revenir sur scène avec un vieil ami et qu'il va montrer qu'il n'est pas encore fini. C'est même bouleversant, je veux dire, cette séquence où... Cet homme qui a en lui toute cette force, cet amour de son métier, qui dit « je vais leur prouver que je ne suis pas encore fini ». C'est tellement lié aussi à sa carrière. Tout ça émane tellement de lui profondément qu'on ne peut pas rester insensible à ça, c'est impossible. Il y a la scène où il meurt, et avoir choisi ce décor de magasin d'accessoires, c'est d'une force colossale, où elle lui dit « mais mon chéri ». Lui dit-elle dans son dialogue. Ce mot qui n'arrive qu'à ce moment-là, nous font le tour du monde, moi je danserai et toi tu feras ton numéro. C'est formidable, cette force-là. La déception lorsqu'il apprend qu'il va être remplacé dans le ballet de Colombine et qu'il rencontre un autre clown qui lui dit paraît que le gars qui fait le clown est très mauvais. Il s'adresse
au gars en question.
La scène où il voit qui est mélodramatique en diable, mais ce sont des choses qu'il a vécues dans son métier. Cet homme qui n'a pas de bras et qui peint avec ses pieds, etc. Qui fait, bon, Claudius. Bon, et il entre dans un bistrot et là, cet homme qui n'a pas de bras est au bar et il y a des imprésaris dans un coin qui bavardent. Et qui est Claudius, dit l'un d'entre eux. Et c'est l'homme qui n'a pas de bras. Ah, il y en a qui fait une moue, qui dit quelle horreur. Et puis Chaplin arrive et n'a pas d'argent, mais néanmoins il a une dignité extraordinaire, celle du vagabond. Il est très bien habillé et il rencontre Claudius qui lui dit fouille dans ma poche, prends de l'argent. Et quand à la fin il est tellement ému, il refuse d'abord et puis il accepte cet argent simplement dans toute humilité. Et lorsqu'enfin il veut lui tendre, le remercier à la fin, il lui tend la main et puis il reste en carafe avec sa main tendue. C'est pour jouer ça, je veux dire, avoir l'idée d'une telle scène, la mettre en scène et être dedans, la jouer, vous savez, ça tient du miracle pour moi. Parce que ça pourrait être d'un grotesque échevelé, et c'est admirable.
C'est aussi dans ce film, Limelight, qu'on assiste à l'unique rencontre de Keaton et de Chaplin.
Et il en parle, je vous dis, dans le bistrot, où il dit « j'ai un vieil ami, et je vais leur montrer que nous ne sommes pas encore finis ». Et cette rencontre, je la trouve très très belle, parce qu'on a pu dire beaucoup de choses, on a pu dire que, je sais parce que des gens qui ont pu voir les éléments de cette scène, disait que Keaton était d'une drôlerie terrible et que Chaplin avait au montage supprimé des choses très très drôles concernant Keaton. On oublie simplement que le héros du film, le clown célèbre, celui qui a déclenché tous les rires, celui qui est très fort, c'est Calvero. Et que si Calvero perdait la face par rapport à son partenaire, il est évident que on irait à l'encontre du scénario. Et ça, c'est très bien vu. Il a quand même pris pour partenaire le plus grand avec lui, quoi. Et ça, c'est formidable. Et je veux dire, cette rencontre, elle dépasse le cadre du film, elle fait partie de sa vie encore une fois, et c'est tout un ensemble. Le plan où Keaton est debout en arrière-plan derrière le cadavre de Chaplin pendant que la fille danse, tout ça est remarquablement beau, quoi, émouvant.
Mais il faut bien reconnaître que dans ce numéro musical, avec Chaplin au violon et Keaton en pianiste empoté, il lui fait pas faire grand-chose quand même. Je sais bien qu'il fallait pas qu'il prenne le dessus sur Calvero Chaplin.
Oui, mais moi, quand même. Je veux pas entrer dans les méandres des conflits comme ça, parce qu'il est sûr et certain qu'il y avait une part de jalousie chez Chaplin à l'égard de Keaton. Ça m'est égal, je m'en fiche complètement. Moi, il reste deux hommes uniques, statufiés. Et je veux pas savoir quels étaient leurs problèmes. Je pourrais vous dire à l'encontre, en faveur de Keaton, qu'à l'époque où il était à Medrano, et qu'il faisait un numéro que peu de gens ont vu, qui était très critiqué parce qu'on attendait beaucoup de Keaton, parce qu'on avait peut-être pas remarqué que c'était un immense metteur en scène, que ce n'était pas seulement un comique interprète, et qu'on attendait beaucoup de lui dans la piste, et que, étant donné la piste de 13 mètres, il ne pouvait pas faire tomber une maison, faire rentrer une cavalerie, etc., de sudistes et de nordistes. Mais ce qu'il faisait, paraît-il, était assez admirable. Et à cette époque-là, sortait justement Limelight. Et il y avait dans un journal qui s'appelait Art à l'époque, et une interview de Keaton, dans laquelle il ne parlait que de Limelight, en disant qu'il était le plus grand d'entre eux, qu'il était admirable. Il vantait les mérites de Chaplin, de la façon la plus émouvante qui soit et de la plus authentique qui soit. Il y avait chez Keaton une déférence à l'égard de Chaplin et une admiration évidente. Et il terminait simplement sur un ton mélancolique. « Moi, je passe à Medrano, si vous avez envie de me voir, venez. » On peut prendre ça comme on veut. C'était une réalité, il passait à Medrano.
Calvero est à la fois la peur de Chaplin et sa victoire sur la peur. Double victoire, d'abord parce que le fantôme de l'échec s'y trouve objectivé, incarné par celui-là même qu'il pourrait hanter. Ensuite parce que l'artiste déchu du film a mieux que la force de retrouver la sérénité, celle de se justifier dans le succès d'un autre être jeune qui continuera son aventure. Quand la caméra s'éloigne de Calvero mort en coulisses et qu'elle rejoint sur la scène la ballerine dansant malgré son chagrin, le mouvement de l'appareil paraît suivre le transfert des âmes. Le théâtre et la vie continuent. Ici, nous touchons à l'originalité fondamentale de Limelight, son côté confession ou portrait de l'auteur et dont certains se scandalisent. Mais le caractère plus personnel des confidences de Chaplin constitue un progrès, une preuve de la maturité de son art. Charlot n'était qu'une silhouette morale, un merveilleux agrégat de symboles, son existence toute métaphysique, celle du mythe. Déjà, M. Verdoux supposait un rapport dialectique entre le mythe et son auteur, une conscience de Charlot extérieure au personnage. Au-delà, il ne restait à Chaplin qu'à abandonner le masque, à nous parler face à face, le visage découvert. Tout le monde admet du reste qu'il est impossible, en voyant Limelight, de faire abstraction de ce que nous savons de Charlot et de Chaplin. André Bazin, Esprit d'avril 1953. Évoque jamais, c'est la richesse de la bande-son.
Ah oui. Ça, on n'évoque jamais. On n'évoque jamais non plus le ton de Chaplin. Quand il chante, par exemple, dans le cirque, sa voix off, etc. Quand il chante à l'intérieur d'un film, comme dans les temps modernes. Quand il fait un discours, comme dans Limelight, sur les étoiles. Tout ça est émouvant parce qu'il a un timbre très particulier. Et on ne peut pas considérer que l'univers sonore de Chaplin soit capital. Je veux dire qu'il est usé des effets sonores pour amener le comique. Il s'appuie sur deux éléments qui sont des éléments théâtraux à mon point de vue. C'est la musique qu'il écrit lui-même, comme par hasard, et les voix des acteurs.
Henri Colpi.
C'était un grand amoureux de la musique, Charlie Chaplin. Il jouait du violon de la main gauche, paraît-il. Enfin, c'est comme ça qu'il joue dans les films, dans Limelight. Il aime la musique. On sait bien qu'il était assez comme ça. Pas compositeur en réalité, il est mélodiste, Chaplin. Il a des thèmes, il trouve des bons thèmes. On sait qu'un des grands succès de Chaplin, ça a été Smile, qui est le thème des temps modernes. Mm-hmm. Quand il a été reçu à Hollywood aux Oscars 20 ans après son départ, toute la salle s'est levée et a chanté Smile. Toi, ton sourire est dans mon cœur. Mais lui, il suffisait de lui parler musique et il changeait tout à fait d'état d'esprit. Je me souviens, quand il s'énervait un peu, ça lui arrivait, pas souvent quand même, il s'énervait un peu comme ça, il n'était pas content, quelque chose qui ne marchait pas. Voilà. Et j'avais trouvé un coup pour le radoucir, c'était de dire, à propos, monsieur, la musique de, admettons, de Limelight, ce thème, des deux petits chaussons, comment il vous est venu? Hop, il s'éclairait complètement et commençait à raconter. Il dit, mais là, par exemple, pour cela, il m'a raconté, il me disait, bien, quand j'étais petit à Londres, le matin, j'entendais les cris des petits marchands. Et il dit, en particulier, le cri des marchands de lavande m'était resté dans la tête parce que ça avait une très jolie mélodie. Ça faisait à peu près... Will you buy my lavender? Avec la voix qui tombe comme ça. Alors que lui, quand il a écrit la mélodie, il a fait... Plus normalement, quoi. Mais très inspiré de ça. je trouve que c'est un musicien, Chaplin. Et je crois qu'il a, enfin, je crois qu'il me l'a dit d'ailleurs, qu'il était très content de l'énorme succès de la musique de Limelight. Il disait même, ça risque de durer plus longtemps que le film.
Quand Limelight fut terminé, j'avais moins de doutes quant à son succès qu'avec aucun autre film que j'avais tourné jusqu'alors. Nous organisâmes une projection privée pour nos amis et tout le monde fut enthousiaste. Nous commençâmes donc à songer à partir pour l'Europe, car Una tenait à mettre les enfants à l'école là-bas, loin de l'influence de Hollywood. J'avais formulé une demande pour un permis de rentrer 3 mois auparavant, mais je n'avais reçu aucune réponse. Je continuais néanmoins à arranger mes affaires pour me préparer à partir. J'avais fait ma déclaration d'impôt et tout était en ordre. Mais quand le fisc apprit que je partais pour l'Europe, il découvrit que je lui devais encore de l'argent. Les gens du fisc arrivaient à une somme de 6 chiffres et exigeaient le blocage en banque de 2 millions de dollars, ce qui était 10 fois plus que ce qu'ils réclamaient. Mon instinct me dit de ne rien bloquer du tout et d'insister pour que l'affaire fût tranchée immédiatement par un tribunal. On me proposa aussitôt un accord sur une somme très raisonnable. Maintenant qu'on n'avait plus rien à me réclamer, je sollicitais de nouveau un permis de rentrée et j'attendis des semaines, mais en vain. J'adressais donc une lettre à Washington en déclarant que si on ne voulait pas m'accorder un permis de rentrée, j'avais de toute façon l'intention de partir. Une semaine plus tard, je reçus un coup de téléphone du service de l'immigration déclarant qu'ils aimeraient me poser quelques questions. Pouvaient-ils venir chez moi ? « Je vous en prie, » répondis-je. 3 hommes et une femme arrivèrent, la femme portant une machine de sténotypie. Les autres avaient de petites valises carrées qui, de toute évidence, contenaient des magnétophones. Le principal interrogateur était un homme grand et mince, d'une 40aine d'années, assez beau et fort habile. Je me rendais compte qu'ils étaient 4 contre 1 et que j'aurais dû avoir mon avocat auprès de moi, mais je n'avais rien à cacher. Je les emmenai sur la véranda et la femme emporta sa machine qu'elle posa sur une petite table. Les autres s'installèrent sur un canapé, leur magnétophone devant eux. L'inspecteur exhiba un dossier d'une 30aine de centimètres d'épaisseur qu'il plaça soigneusement sur la table auprès de lui. Je m'assis en face de lui, puis il se mit à examiner son dossier page par page. « Votre véritable nom est-il Charlie Chaplin ?»« Oui. » »« Certaines personnes disent que votre nom est... » Il mentionna alors un nom à consonance très étrangère et que vous êtes originaire de Galicie. « Non, je m'appelle Charles Chaplin comme mon père et je suis né à Londres, en Angleterre. » Vous dites que vous n'avez jamais été communiste. Jamais, je n'ai jamais de ma vie appartenu à une organisation politique. Vous avez prononcé un discours dans lequel vous disiez « camarade ». Qu'entendiez-vous par là ? Exactement ça. Regardez dans le dictionnaire. Les communistes n'ont pas l'exclusivité de ce mot. J'embarquai sur le Queen Elizabeth à 5h du matin, heure romanesque certes, mais tout simplement pour la sordide raison que je devais éviter les huissiers porteurs de convocations éventuelles. Mon avocat m'avait donné pour instruction de monter discrètement à bord, de m'enfermer dans mon appartement et de ne pas me montrer sur le pont avant que le pilote eût débarqué. Comme depuis 10 ans j'étais dressé à attendre le pire, j'obéis.
« 1957, un roi à New York. »
Et sur le sujet d'un roi à New York, parce que c'est son règlement de compte avec la société américaine.
Oui. Ah bah, oui, là, Chaplin a toujours eu... Chaque film de Chaplin est un règlement de compte. Après, je veux dire, après les grands, quoi. Après La Ruée vers l'or, ou même avant, peut-être, à partir de 1920, Le Kid, ou 22, Le Pèlerin, chaque fois, il y a un problème. Qu'il règle à retardement, d'ailleurs. Le problème des femmes, où il a eu beaucoup d'ennuis, du genre, procès en paternité, des choses comme ça, ce problème-là, il le traite avec des années de retard, mais au moment où il a rencontré la femme de sa vie. Il a rencontré Una Chaplin, enfin Una O'Neill, et à ce moment-là, il fait un film misogyne pour régler le compte d'avant, quoi, Monsieur Verdoux. Mmh. Puis 4-5 ans après, comme on lui a reproché d'avoir épousé à 47 ans une fille de 17-18 ans, il fait Limelight, où il montre qu'un vieux clown ne devrait pas être amoureux d'une petite danseuse de 18-20 ans. Mais où, finalement, il exprime bien que c'est une chose possible et qu'il l'a faite. Alors après, il vient en Europe. C'était l'époque donc du macartisme, quand il a quitté les États-Unis. Et il me disait, vous savez, là-bas, je ne pouvais plus vivre. Il y avait au-dessus de moi comme une chape de plomb. Plus personne ne venait me voir, je n'avais plus d'amis. Et là, il dit, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis en Europe. Je respire, je suis heureux.
Il est toujours resté anglais, d'ailleurs. Il n'a jamais été naturalisé américain.
On lui a beaucoup reproché. Mmh. Et alors, alors il fallait bien qu'une fois étant heureux en Europe, content, il fallait bien qu'il règle ses comptes avec l'Amérique. Et ce film a été cela, Un roi du York.
Your Majesty, glad to see you alive and well.
Ha ha, we fooled them.
Come on, fellas, bring it up. Get a move on. Come on, fellas, get a move on.
Your Majesty, how about this controversy over atomic energy?
Ladies and gentlemen, that's how I lost my throne. I wanted atomic energy for domestic use, but my ministers wanted atomic bombs. Nevertheless, I have nuclear plans that will revolutionize modern life and bring about a utopia undreamed of.
Your Majesty, if I might interrupt, the immigration officer is waiting.
I beg your pardon.
This way, sir.
That will be all, gentlemen.
Au début, par exemple, ce roi qui est le chaplain, quand on lui prend les empreintes digitales, il montre ça comme quelque chose d'un peu indigne, enfin... On ne devrait pas faire ça.
I am deeply moved by your warm friendship and hospitality. This big-hearted nation has already demonstrated its noble generosity to those who come to seek a refuge from tyranny. Thank you.
Pour un roi à New York, j'ai passé 2 ou 3 mois dans la salle de montage, mais je ne suis pas crédité. Ça s'était passé au fond de la façon suivante. Charlie Chaplin avait tourné ce film à Londres et, semble-t-il, pour des raisons fiscales, il venait le monter à Paris, au laboratoire LTC, là, à Saint-Cloud. Et c'était une époque, là, c'est quand même l'année 1956, si je ne me trompe, c'était une époque où, quand des films américains étrangers se tournaient en France, les syndicats exigeaient la double équipe française. Alors Chaplin venait à Paris, montait son film avec un chef monteur anglais et un assistant anglais, et donc il fallait une double équipe française. Et alors on était là, en principe, pour ne rien faire. Même pas obligé spécialement de venir, payer, oui, correctement d'ailleurs, Et en fait, moi, je suis venu tous les jours que le bon Dieu faisait, de la première minute à la dernière. J'arrivais, moi, vers 9h30. Lui, Chaplin, arrivait toujours à 10h moins 20. Régulièrement. J'arrivais juste un peu avant lui et je voulais voir ce qu'il faisait, comment il travaillait. Et c'est pas un monteur en soi extraordinaire, je veux dire, au point de vue habileté manuelle de montage, c'était pas son fort, hein. Il était simplement, c'était un metteur en scène, un grand, qui savait ce qu'il voulait, qui connaissait la durée de ses plans, qui savait comment un plan devait succéder à un autre. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la mise en scène. Et ça m'a beaucoup servi après. De voir avec quelle minutie il choisissait entre 10 prises d'un même plan. L'une d'entre elles, pour qu'elle soit dans le film, et que le lendemain, d'ailleurs, il revenait en regrettant d'avoir choisi celle-là, il l'enlevait, il se faisait passer toutes les autres, il en remettait une autre, que 3 jours après, tout aussi bien, il l'enlevait pour en mettre encore une autre. Enfin, finalement, d'approche en approche, il arrivait à avoir sa prise. Il calculait aussi en fonction, je me rappelle, il mettait du sparadrap noir en haut et en bas du petit écran de l'appareil de montage, pour savoir si le plan qu'il choisissait, si on voyait bien, par exemple, ses mains en bas de l'écran quand on passerait le film en 1,66, parce que c'est déjà l'époque du 1,66 contre le cadrage normal qui jusque-là avait été le 1,37. Et il prenait la prise qui était valable aussi bien pour le 1,37 que pour le 1,66. Enfin, il y avait comme ça une minutie dans tout ça, et un regard, quoi, de metteur en scène, c'était ça. Et puis, par exemple, quand il a fini de tourner son film à Londres, bon, son chef monteur et son assistant monteur ont mis tout le film dans des boîtes, tout était répertorié, numéroté, bien sûr, mais il n'y avait pas une image de montée. Et lui, il est parti en vacances, enfin, il est parti se reposer après 11 semaines de tournage. Et un jour, il est arrivé dans la salle de montage, et là, le montage a commencé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire des raccords, qu'il avait tourné tout. Il avait son film dans la tête et il avait tourné tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est une grande position de metteur en scène. Et il faut dire que Chaplin était non seulement un metteur en scène et une vedette comme comédien, mais que c'était son propre producteur.
Good afternoon. This is another televised recording of the investigations of the Congressional Committee on Un-American Activities going on in the federal building downtown New York City. These investigations are to expose communism in all branches of our American institutions. The committee has already questioned scientists, educators, churchmen, writers, and actors. But first, a glimpse at the humorous side. The investigators indulge in a Hollywood.
À New York, c'est aussi le dernier grand message humaniste de Chaplin, avec notamment la séquence qui est la plus grave, il me semble, du film, au sujet de l'enquête McCarthy sur les activités anti-américaines.
I do. State your name, please.
James Durkin.
Profession?
School teacher.
Mr. Durkin, were you ever a member of the Communist Party?
I was, sir. I joined the Communist Party in 1940 and resigned in 1950.
In 1940, did you meet Mr. and Mrs. Maccabee, school teachers?
I did, sir.
Mr. and Mrs. Maccabee, stand
Chaplin
up.
Chaplin s'est toujours défendu d'être communiste. Mais il parlait... Je me souviens, il y avait eu, pendant ce montage, pendant une journée, on n'avait vraiment rien fait à la salle de montage parce que les Russes étaient entrés à Budapest. En octobre 56. Et alors c'était... Le film n'était plus un problème, il y avait quelque chose de plus grave. C'était cette entrée des Russes à Budapest. On a parlé toute la journée, ou pratiquement, de ça, de cet événement, qui changeait... Enfin, qui changeait beaucoup de choses dans l'approche qu'on pouvait avoir de l'Union soviétique. L'une des grandes attaques du macartisme contre lui, c'était quand même Il a lutté pendant plus d'un an ou deux pour l'ouverture d'un second front, pour soulager l'Union soviétique qui était seule à supporter le poids de la guerre. Bon, c'était assez normal en son temps, en 1941-42, de dire ça. En 1950, ça ne l'est plus. Ça devient. Vous étiez un communiste, un crypto-communiste. Vous vouliez qu'on défende l'Union soviétique, qu'on soulage l'Union soviétique. Et donc, on l'a fait. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, l'Union soviétique? Elle va. Enfin, elle nous menace, nous. Grosso modo, c'était ça.
Est-ce que ça vous paraît être un grand Chaplin?
Non, je crois pas. C'est pas un grand, mais c'est un bon. Je l'ai revu il y a pas longtemps à la télévision, il est repassé comme ça. Or, c'est pas la fantaisie débridée, les idées formidables de choses comme les temps modernes ou le dictateur, que je trouve des très très grands films. Mais c'est pas non plus ce qu'on en a dit. Il est vrai que tout ce qu'on en a dit, on a dit beaucoup de choses méchantes sur Un roi à New York, la critique française par exemple. Mais il faut bien dire, la critique française, il n'y a pas un film de Charlot qui soit sorti depuis L'Oreiller vers l'or sans que la moitié au moins de la critique dise c'est mauvais.
Et plus de la moitié pour le tout dernier, La Comtesse de Hong Kong.
Alors là, c'était général.
Chaplin, j'ai l'impression que les cinéastes cinéphiles comme vous le citent rarement dans leur panthéon cinématographique.
C'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'il s'est passé une chose bizarre. Je me souviens très bien que voici...
Claude Chabrol.
Lustre, on dit. Notre ami c'est François Truffaut avait cité une phrase d'André Suarez qui était terrible, qui disait « Le cœur ignoble de Charlot ». Et c'est une époque, dans les années 51-52, où on n'était pas très chaplinien. Et puis alors, d'un seul coup, ça a changé parce qu'on s'est aperçu que cette histoire de cœur n'était pas tellement gênante en fonction de l'extraordinaire invention qu'il pouvait y avoir dans les films. Et la formidable précision de la mise en scène, c'était finalement un metteur en scène absolument génial, absolument extraordinaire.
Et ça, c'est ce dont on ne se doute pas d'habitude.
C'est vrai. Je suppose que ça vient du fait qu'il a toujours été techniquement volontiers quasiment réactionnaire. C'est-à-dire qu'il n'acceptait le parlant que très tard, le principe d'un découpage en mouvement très tard, et ça doit être ça qui donnait à penser qu'il ne se préoccupait pas du tout de la forme, et alors que c'était le contraire. C'était extraordinairement travaillé. Puis au niveau des déplacements des gens dans le décor, c'était tout à fait... Quand on revoit les Chaplin, même dans ceux qui sont moins estimés, enfin, hors Charlot, genre les Limelight ou des choses comme ça, on est complètement impressionné par l'extraordinaire précision du travail. Vous savez, il y a un film qu'on n'avait jamais vu, et quand on a eu l'occasion de le voir, on a tous été complètement suffoqués. C'était Langlois qui avait fait une petite projection, je ne sais pas comment il a vu la copie d'ailleurs, une projection en douce comme ça, presque dans des cabinets, enfin, pour que personne ne le sache, de l'opinion publique. Et là, c'est sans doute un des plus beaux films muets, en tout cas, et dans l'ensemble, un des plus beaux films qu'on ait jamais fait. Je me suis aperçu que c'était le seul film où l'intrigue avançait sans qu'aucun des personnages ne commette de bêtises. C'est très rare, parce que d'habitude, on ne fait avancer les actions que par l'imbécilité des personnages. C'est-à-dire qu'ils font une chose qu'ils ne devraient pas faire. Tandis que, dans l'opinion publique, tout le monde se conduit intelligemment. La progression existe quand même, c'est tout à fait admirable.
Mais voyez, vous parlez de ces films en termes de progression dramatique.
Oui, oui, bien sûr.
C'est un grand metteur en scène, mais pas du genre, par exemple, de Lang. Je suppose que vous pourriez me décrire 50 plans de Lang avec précision.
Oui, non, c'est très différent. Oui, oui. C'est très différent parce que je me suis aperçu d'un truc. Pour la télé, il y avait une émission qui n'a pas duré très longtemps où on demandait de faire une espèce d'imitation ou d'hommage d'un film qu'on aimait. Et j'avais fait M. le Maudit en 7 minutes.
Et dans ce même Le Maudit, j'avais essayé tout, c'est-à-dire de faire carrément de l'imitation pure, des plans à la manière d'eux, des plans qui pourraient y être mais qui n'y étaient pas. Je m'avais même pris des plans du vrai Maudit, ça, pour mélanger ça. Et je me suis aperçu que sur un panoramique, par exemple, la vitesse même du panoramique était à la limite, à la seconde près, pour créer la sensation qui était sur l'écran. C'est-à-dire que c'est un travail de minutie d'horlogerie absolument fou, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas de Chaplin, qui ne se préoccupait pas de ces choses-là. Mais
vous ne pourriez pas tourner un pastiche de Chaplin.
Non, c'est intournable. C'est impossible. C'est absolument impossible parce que finalement, il n'y a pas de truc. Lui avait des trucs, mais il n'y a pas de truc qui soit en dehors de sa propre personnalité. Donc c'est des trucs qui ne marchaient qu'avec lui, quand même.
Pour ma part, j'ai horreur des effets bizarres, comme par exemple filmer à travers un feu dans la cheminée du point de vue du morceau de charbon, ou bien suivre un acteur dans le hall d'un hôtel comme si on l'escortait à bicyclette. Pour moi, ce sont des effets faciles et cousus de fil blanc. Dès l'instant que le public connaît le décor, il veut se voir épargner l'ennui d'une tache qui bouge à travers l'écran pour voir un acteur se déplacer d'un endroit à un autre. Des effets aussi pompeux ralentissent l'action, sont ennuyeux et déplaisants, et on les a pris à tort pour ce mot fatigant d'art. La disposition de caméra que j'utilise est destinée à faciliter la chorégraphie dans les mouvements de l'acteur. Quand une caméra est placée sur le sol, ou quand elle tourne autour des narines du comédien, c'est la caméra qui joue et non pas l'acteur. La caméra ne doit pas s'imposer. Gagner du temps au cinéma, c'est la vertu essentielle. Eisenstein et Griffith le savaient bien. Un montage rapide et des fondus enchaînés d'une scène à l'autre constitue la dynamique de la technique cinématographique. Je suis surpris d'entendre certains critiques dire que ma technique de la caméra est démodée, que je ne marche pas avec mon époque. Quelle époque ? Ma technique est le résultat de méditation personnelle, c'est le fruit de ma propre logique et de mon propre point de vue. Elle ne doit rien à ce que font les autres. Si en art on doit suivre son époque, alors Rembrandt serait bien en retard par rapport à Van Gogh.
Et la mise en scène, alors, Chaplin, cinéaste.
Alors là, c'est tout à fait extraordinaire et exemplaire encore, parce que il n'y a aucun effet, bien entendu, apparent. Et il y a surtout une chose qui repose essentiellement. Toute sa mise en scène n'existe qu'à travers lui, acteur.
Pierre Etex.
Et ce n'est pas exactement... Si on peut, je n'aime pas les comparaisons, mais si on peut faire une comparaison avec Keaton, c'est que Keaton est d'abord un grand metteur en scène qui est capable de mettre en scène toute une armée, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et Chaplin ne s'appuie pas du tout sur les mêmes choses. Chaplin aime tourner en studio parce qu'il a le goût du factice. Et le factice, c'est aussi le spectacle. Et lorsque, par exemple, Chaplin met en scène un film, il se met en scène. Et on peut se dire qu'il tournerait devant un fond noir, en plan fixe, que l'on appelle ça de la mise en scène ou non, c'est quand même une expression cinématographique vue par un grand cinéaste. Dans La Ruée vers l'or, par exemple, de La Danse des petits pains, il situe la scène dans un décor, et puis lorsqu'on se rapproche sur lui pour voir le numéro, qui est la chose à voir, unique, en un plan, il y a un fond complètement noir derrière, et on ne voit que lui. Et ça, c'est formidable. Je veux dire, il y a très peu de gens qui peuvent se payer ce luxe-là. Enfin, c'est le cas d'espèce, je dirais qu'il n'y en a pas d'autre qui l'ait fait.
Oui, mais alors on a l'exemple opposé, La Comtesse de Hong Kong, où pratiquement il n'apparaît pas. Donc oui. Là, c'est de la mise en scène pure.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'est pas fondé sur son personnage.
Non, mais même quand il n'est pas à l'intérieur d'un film, ou peu, comme dans Verdoux, il y a quantité de scènes qui dans lesquelles il n'est pas, et où les personnages existent. Il les met en scène comme au théâtre. Il use du plan fixe et par conséquent, il y a des limites de décor qui sont des règles qui peuvent paraître primaires et qui en fait sont des règles élémentaires pour moi. Je veux dire que c'est bien qu'une caméra puisse bouger, mais alors faire bouger une caméra à tout prix, ça ne veut rien dire si on peut s'exprimer avec une économie de moyens, ce qui est son cas. Il met en scène ses personnages comme il se mettrait en scène lui-même, c'est-à-dire que il y a dans Verdoux ou dans Limelight des scènes, encore une fois, avec d'autres personnages, on le retrouve partout. Je veux dire que les personnages deviennent des personnages hors du commun, qui sont des personnages transposés, qui appartiennent à son univers. Et c'est sa force de metteur en scène, je crois.
...1966, La Comtesse de Hong Kong.
Moi j'ai vu à l'intérieur de ce film, effectivement, de La Comtesse de Hong Kong, j'ai vu Charlot à travers Sophia Loren et Chaplin à travers Brando. Il est évident que Brando n'a joué comme ça qu'une fois dans sa vie. Il est unique dans ce film, parce qu'il est le reflet de Charlot, et ce n'est pas Charlot. Et Sophia Loren, c'était d'autant plus étonnant, elle n'est pas non plus la réplique de Charlot, mais elle est quelque chose qui est plus que la réplique de Charlot, elle est l'âme de Charlot dans ce film, je trouve. Le côté pathétique passe et le côté cocasse passe aussi. Et c'est une gageure, parce qu'avec des vedettes de cette nature-là, des stars, enfin, être arrivé à les diriger de manière à ce qu'ils restent complètement eux-mêmes, s'il les a choisis avec cette personnalité, c'est pas par hasard, et d'être arrivé à faire qu'ils passent dans son moule, c'est proprement génial, parce que je ne vois pas un metteur en scène au monde qui ait fait cette expérience antérieurement, avec des stars qui ont une personnalité, qui se sont imposées précisément par leur personnalité.
Cette comédie sentimentale ressemble à mille autres portant la marque d'Hollywood. Il ne s'agit plus d'une fable, comme précédemment, mais d'une anecdote nue où la psychologie prend nettement le pas sur la morale. Le dialogue, jusque-là mesuré au compte-gouttes et n'ayant d'autre rôle que didactique, coule d'un cours normal et brille d'une vertu comique propre. On songe à Lou Beach, à Cukor, ou plus précisément à Hawks, Aller coucher ailleurs, ou Minelli, La femme modèle. Faut-il croire que Chaplin, là de voguer en solitaire, à bout d'inspiration, se soit enfin résigné à suivre le goût qu'il croyait être du jour et qui n'était en 1966 que celui de la veille, sinon de l'avant-veille? Notons que le projet de La Comtesse date de 1937 et qu'il n'est qu'un parmi d'autres scénarios que Chaplin avait dans ses tiroirs et dont il se proposait de tirer une seconde opinion publique, c'est-à-dire un film dont il ne serait plus le protagoniste. La Comtesse ne démarque pas plus la comédie américaine que les Charlots ne démarquaient Max Sennett. Elle a sa place à côté, disons, du sport favori de l'homme, comme la ruée vers l'or à côté du mécano de la générale. Que Chaplin, en ses vieux jours, ait marqué le désir de rentrer dans le rang d'où il est sorti et où il a fait brillamment ses armes, et marque certainement plus d'humilité que de démission. Éric Rohmer, 1972.
Dans La Comtesse, il y a au début du film, puisque tout se situe sur un paquebot, il y a un plan qui doit être pris sur la mer, du paquebot, qui plonge, la proue du paquebot qui plonge dans les vagues. Il y a un bal sur le bateau, et on entend cette musique, mais elle est présente dans la mer, elle est partout cette musique, elle est illustrative, elle est fonctionnelle, elle a toutes les qualités aussi. Et c'est une valse, et une valse un peu viennoise, vous voyez. Et chaque fois que la proue navire plonge, on est sur les tempos de la valse. C'était très audacieux, je trouve ça, parce que ça m'a fait penser un peu à ce qu'a fait Kubrick dans 2001, où il y a tous les thèmes des valses de Strauss sur les engins spatiaux. Il y a un hiatus là-dedans, une incongruité sur le fait d'entendre cette musique présente alors qu'on est sur la mer, et d'avoir cette valse qui se justifie justement par rapport à l'action qui s'en suivra.
Le fait que Chaplin n'apparaisse que quelques secondes, ah, comme oui, un steward atteint de nausées, de mal de mer, faut-il y voir quelque chose de symbolique, là, dans cette
ah,
nausée?
Ah, voilà, j'ai un souvenir inoubliable de ce plan-là. Inoubliable où vraiment le malaise est exprimé avec très très peu de moyens, justement, et énormément d'efficacité. Et il a un regard désespéré, comme on peut l'avoir quand on est malade physiquement, quoi.
Et c'est la toute dernière apparition de Chaplin à l'écran.
Oui. J'ai le souvenir de journaliste l'interviewant à l'issue de la projection de ce film, où il n'a cessé de répéter « c'est mon meilleur film ». Il n'a eu d'autres commentaires. C'était le meilleur parce que c'était le dernier, c'est évident. Il le croyait, il en était persuadé. Et même s'il n'en était pas persuadé, cette attitude était extrêmement digne. Parce qu'on l'a agressé, on lui a dit « mais enfin, vous savez, monsieur Chaplin, que les caméras, ça roule, ça se déplace, ça bouge ». Vous avez fait tout votre film en plan fixe et ce n'est pas intéressant. L'histoire que vous nous racontez ne nous intéresse pas, etc. Comment peut-on dire ça à Charlie Chaplin? Jerry Lewis, à Cannes, quelques années ensuite, a fait une conférence de presse devant les journalistes venus de tous les pays, une conférence internationale, et il leur a dit, sur le ton de Chaplin, vous avez fait pleurer le cœur de Charlot, vous qui ne savez rien faire.
Est-ce que vous auriez pu imaginer de faire avec Chaplin ce que vous avez fait avec Wells? C'est-à-dire l'utilisation d'un mythe dans votre univers?
Oui, ça aurait pu être intéressant, mais...
Claude Chabrol.
C'est très étrange. Enfin, j'aurais eu... c'est la même chose. J'ai envie de démasquer. Et j'aurais eu envie de le démasquer, mais Je ne vois pas très bien par rapport à quoi. C'est ça qui est. Pour Wells, c'est facile de voir par rapport à quoi. On pouvait démasquer. Là, j'ai raté mon coup complètement. Bon, alors, donc c'est lui qui m'a eu. Bon. Mais le mythe devait se douter du coup. Bon, mais ce qu'il y a de terrible avec Chaplin, c'est que il est à la limite insaisissable, quoi. C'est-à-dire que le
tout le personnage de Charlot est fait là-dessus.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il lui-même avait analysé beaucoup plus loin que n'importe qui la subtilité de son déguisement et je crois que c'était très difficile d'enlever le masque.
Chaplin après Charlot, par Jean-Pierre Pagliano. Avec Claude Chabrol, Henri Colpi et Pierre Etex. Extrait d'Histoire de ma vie de Charlie Chaplin, lu par Laurette Bonius. Texte critique de Jacques Bonius,
André Bazin et Éric Romer. Groupe de réalisation, Marie-Dominique Bougot, Pierre Guérineau, Claude Giovanetti. Documents, Alain Lacombe et Alina Yves Builly.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 29 avril 1986.